Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode de podcast assez particulier, je dirais même inédit, immersif. Oui, oui, oui. Vous le savez, enfin j'espère, mon podcast s'appelle Simple Caféine. Et si ça s'appelle Simple Caféine, c'est pas pour rien. C'est pour ma passion, pour le café. Alors je sais pas si vous la partagez, mais j'espère vous faire tomber sous le charme de ce monde, parce qu'on va deep down dedans aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur le terrain, au Paris Café Festival, un festival du café de spécialité. Je vous emmène à travers plein de rencontres pour répondre à toutes vos questions. C'est quoi le café de spécialité? Pourquoi un festival du café de spécialité? C'est quoi un torréfacteur? Quels sont les enjeux actuels dans le monde du café? Ça a quel goût, le café de spécialité? Et c'est quoi le futur du monde du café? Croyez-moi, si vous n'êtes pas des amateurs de café, après cet épisode de podcast, vous aurez envie de courir dans votre coffee shop et d'aller tester différents types de café. À travers cet épisode de podcast, je veux surtout rendre ce mot qui a l'air si spécifique, plus accessible et surtout vous donner envie de vous y intéresser pour mieux comprendre vos passages dans vos coffee shop mimi préférés ou bien simplement vous aider à porter attention au café que vous allez choisir pour mettre dans vos machines chez vous. J'ai l'honneur, la joie et la fierté de vous dire que cet épisode est en collaboration avec De'Longhi. C'est la marque de ma machine à café qui m'accompagne au quotidien dans mes expressos, dans mes flat white et surtout dans mon apprentissage autour du café. Bref, je peux plus attendre, je pense que vous non plus, alors je vous emmène sur le terrain avec moi et mon micro. By the way, portez une attention particulière à la joie dans ma voix, qui résume mes 3 jours passés avec tous ces passionnés.
Bon les gars, c'est bon, je viens d'arriver au Paris Café Festival, j'ai hâte de rencontrer tout le monde. Je sais pas par où commencer, mais je vois des têtes que je connais. Ok, attendez, on reprend au début. C'est quoi le café de spécialité et c'est quoi ce festival? Je suis super surexcitée, je vais rencontrer la fondatrice du Paris Café Festival et vous allez pouvoir comprendre un peu les enjeux, pourquoi ça existe. On la retrouve maintenant.
Stéphanie, qui es-tu, que fais-tu? Pourquoi sommes-nous là?
Voilà. Stéphanie Magnani, donc je suis la cofondatrice du Paris Café Festival. La première édition a eu lieu en 2019. Le but, c'est vraiment de démocratiser le café de spécialité et c'est de montrer le travail que font les producteurs et de permettre aux consommateurs, aux visiteurs de découvrir qu'est-ce que c'est le café de spécialité et leur faire découvrir cet univers. Que ce soit, il y a des producteurs, il y a des importateurs, il y a des torréfacteurs. Il y a pas mal de baristas aujourd'hui aussi.
C'est vrai qu'il y a pas mal de grandes marques comme De'Longhi qui sont là.
Tout à fait.
Mais il n'y a pas de grandes marques du café. C'est voulu du coup, c'est pour vraiment démocratiser le café de spécialité. J'ai l'impression que chaque marque qui est ici est avec son petit torréfacteur, sa marque locale, pour vraiment encourager justement ce commerce-là, c'est ça?
Exactement. Ce qui est génial, c'est que comme il y a De'Longhi qui est là, qui pousse justement les torréfacteurs artisanaux de café de spécialité, il donne l'opportunité à des torréfacteurs ou à des coffee shops de venir justement prendre des créneaux et faire découvrir leur café.
C'est quoi ton stand coup de cœur?
C'est difficile, je ne les ai pas tous vus. Mais je suis allée faire un tour chez Café Mouda, il avait de super belles choses, Kawa. Et puis il y a vraiment une bonne ambiance entre les exposants aussi. Et même les torréfacteurs entre eux, ils vont sur les stands les uns les autres. Alors vas-y, toi, fais-moi goûter. C'est vraiment la passion du café.
Et je pense qu'il faut se rendre compte aussi que le café de spécialité, c'est encore un tout petit monde, c'est tellement niche. Et les gens, c'est des passionnés avant tout, qui ont envie vraiment de partager leur expérience autour du café. Donc il ne faut pas hésiter à poser des questions justement dans les coffee shops, dans les cafés de spécialité. Avoir un bol à terre, c'est sympa, mais savoir c'est quoi la provenance des grains, d'où est-ce qu'ils viennent, c'est quoi le producteur, et comprendre aussi le parcours du barista.
Et je pense que c'est important aussi, en tant que consommateur, on a le droit de savoir d'où ça vient. Et c'est vrai qu'avec un café de spécialité, on a cette réponse-là, parce que c'est des cafés qu'on peut tracer, on peut savoir exactement de quelle ferme ils ont été plantés. Moi, quand je parle autour de moi, je dis, mais regarde bien quand tu achètes un paquet de café, regarde si c'est à l'origine. On va te mettre des notes sur les arômes que tu vas retrouver dans ce café. C'est ça, le consommateur, il doit être vraiment aussi curieux de savoir, comme pour le vin, j'ai envie de dire, quand on regarde une bouteille ou quand on regarde dans un menu, il y a toute la description. Et c'est vrai que pour le café, au final, ça devrait être la même chose.
Merci en tout cas, bravo pour cette initiative.
Merci, merci pour ta visite et j'espère que tu apprécies en tout cas le festival.
Hâte d'aller découvrir les autres intervenants et on va parler de café pendant tout cet épisode de podcast.
Génial.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Allez hop, suivez-moi, on se faufile. C'est quand même drôle de faire un podcast immersif comme ça. J'ai déjà perdu mon guide. Je vois tellement d'acteurs du café. Ah, mon guide est là.
Est-ce que je peux te demander de te présenter?
Alors, je m'appelle Adrien Georges. Je suis donc coordinateur communication pour la SCA France. Donc la SCA France est le chapitre français de la SCA internationale. Et donc c'est une association dont le but est de promouvoir le café de spécialité et plus globalement le café de qualité tout simplement. À travers deux volets que sont d'un côté les championnats, et donc là actuellement au Paris Café Festival il y a deux championnats de France qui sont en cours, le championnat de France Barista et celui de Six, donc Coffee in Good Spirit, qui est un peu un croisement entre le milieu des barmen et des cocktails et celui du café. Et l'autre volet donc, de l'ASCA, c'est celui de l'éducation. Et l'ASCA International a mis en place, a créé plein de modules de formation au monde du café.
Tu es un des premiers intervenants que j'interview. Comment tu expliquerais, définirais le café de spécialité? C'est quoi la différence entre un café un peu plus basique qu'on trouve en supermarché et un café de spécialité parce qu'on va entendre ce nom à de nombreuses reprises dans cet épisode de podcast. Et pour définir les bases, qu'est-ce que c'est un café de spécialité ?
Alors, pour être factuel, un café de spécialité, contrairement aux autres cafés de commodité, c'est un café qui va être plus qualitatif, alors plus qualitatif à la tasse, puisque pour être café de spécialité, il va falloir que le café soit noté et qu'il ait une note de plus de 80 points sur 100. Donc ça, c'est l'aspect purement technique. Et il faut que le café vert, donc, qui est ce qu'achètent tous les torréfacteurs, qu'on soit industriel ou artisan, ait suffisamment peu de défauts. Parce que les défauts sont aussi des défauts qu'on va retrouver à la tasse, en goût. Donc il y a un tri sur le café vert. Et ensuite, il y a une notation du café infusé. Et il faut avoir plus de 80 points sur 100. Alors les défauts dans le café vert, donc là, on ne parle pas de café torréfié, on parle de café cru, café vert. Ça peut être effectivement des corps étrangers, des pierres, des morceaux de bois. Ça peut être des grains défectueux, ça se voit visuellement sans problème. Il y a des grains qui sont complètement noirs alors qu'ils devraient être verts. Il y a des grains qui sont attaqués par les insectes. Il y a des grains qui sont ce qu'on appelle des flotteurs. Il y a tout un tas de défauts qui sont classifiés, qui peuvent être des défauts majeurs ou des défauts mineurs. Et en fonction du nombre de défauts qu'on va retrouver dans un échantillon de 300 grammes de café, on va pouvoir dire que c'est un café éligible au café de spécialité ou pas. Mais ce n'est pas vraiment ça le plus important à mon avis. Un café de spécialité, c'est surtout des cafés alors, plus qualitatifs, oui, et aussi plus durables. Alors quand je dis plus durable, il y a l'aspect environnemental, certes, bien souvent c'est le cas, et il y a une durabilité aussi sociale. Le café de spécialité permet aux producteurs de gagner en valeur ajoutée, d'avoir une rémunération qui est plus décente. Le fruit de leur travail est tout simplement mieux rémunéré. Il faut savoir que le café, que ce soit en France ou ailleurs, partout dans le monde, c'est un produit de commodité et ce qui va fixer son prix, c'est les cours de la bourse. À New York pour l'Arabica et à Londres pour le Robusta. Ça n'a rien à voir avec ni la qualité du café, ni les problèmes que peuvent rencontrer les producteurs. Quand on parle de café de spécialité, à l'inverse, on sort un petit peu de ce modèle et on va pouvoir atteindre des prix d'achat qui vont être bien supérieurs. Donc on arrive sur des producteurs qui gagnent suffisamment pour vivre de leur travail, c'est quand même la moindre des choses, et parfois mieux. Plus ils obtiennent des notes qui vont être élevées finalement, plus le café va être cher et meilleur il sera. Il faut être bien conscient qu'aujourd'hui, on a une moyenne d'âge chez les caféiculteurs qui est plutôt autour de 50 ans, que la plupart des jeunes générations n'ont pas envie d'aller vers la caféiculture parce que ça ne rapporte pas suffisamment. Donc, en tant que consommateur, au-delà du fait de vouloir boire des bonnes tasses de café, ce qui est louable, hein, ce qui est très bien, il faut aussi avoir ça en tête. Si on veut pouvoir boire du café dans 20 ans ou plus, il va falloir être prêt aussi peut-être à le payer à son juste prix.
Et pour la qualité qu'on en ressort, les arômes, la proximité avec les agriculteurs, avec les torréfacteurs, etc. Je pense que ça vaut tout l'or du monde, sans mauvais jeu de mots, parce que le café, c'est un peu...
Oui, mais vraiment, j'invite tout le monde à franchir le pas et à un petit peu acheter donc, ces fameux cafés de spécialité, et en tout cas des cafés de qualité pour eux. Voilà, parce que le café, certes, il y a de la caféine, certes, ça réveille le matin, mais c'est censé être un produit plaisir, donc c'est censé être un moment agréable. Vraiment, quand on va sur des cafés de spécialité, vous avez une diversité d'arômes, de saveurs qui va être complètement autre chose que ce que vous pouvez retrouver dans les grands rayons de supermarchés.
Maintenant qu'on sait, c'est quoi le café de spécialité ? C'est quoi le rôle de la Specialty Coffee Association ?
Alors, le rôle de la SCA, c'est donc via ces deux volets, que sont la formation qui s'adresse à la fois à tous les professionnels, hein, aux baristas, aux torréfacteurs, aux acheteurs de café, via le second volet qui est les championnats. Et là, quel meilleur exemple que le Paris Café Festival aujourd'hui. On voit qu'il y a beaucoup de monde. Il y a eu tout au long du week-end énormément de visiteurs et plein de gens qui vont... qui peut-être en rentrant ne savaient pas ce qu'était un café de spécialité et vont peut-être le découvrir. Et via les championnats, on voit des candidats qui sont clairement puristes, hein, qui contrôlent chaque aspect technique et chaque variable à merveille. Mais en tout cas, on voit des gens passionnants et j'invite du coup le public à aller goûter leur création. Il y avait vraiment... Encore une fois, un univers entre un café, je ne vais pas citer de marque, mais de supermarché, et ce que vous allez goûter ici. Et voilà, les championnats servent à ça, à attirer le grand public et à démocratiser l'accès aux cafés de spécialité.
Je sais qu'il y a plusieurs personnes de ma communauté qui sont venues dans le but justement de trouver leur rôle dans le monde du café, ou qui ont envie de devenir barista, ou qui ont ça prouve que ce salon-là, il est aussi bon pour les personnes qui veulent découvrir. Il ne faut pas être un expert en arrivant ici. Et ma dernière question, ce serait comment démocratiser le café de spécialité en 2024?
Comment pousser le café de spécialité? Grâce à des gens comme vous, peut-être, qui donnent la parole aux professionnels du café qui ont en tout cas cette envie de démocratiser le café de spécialité. Plus on en entendra parler... quand je dis « on », ce n'est pas les gens sur le salon, c'est le grand public. Vraiment, plus on va avoir un écho autour du café de spécialité, plus forcément le grand public va s'y intéresser. Et à mon avis, une fois qu'on a goûté un café de spécialité...
There is no coming back.
Voilà, exactement.
On ne revient plus en arrière. Exactement. Merci beaucoup. Je pense que ça va éclairer pas mal de personnes et c'était essentiel. Donc, merci.
Super, et ben merci à vous.
Merci.
Bonne fin de journée.
Bonjour Victoire.
Salut Léa.
Tu vas bien?
Super bien. Ravie d'être ici.
Explique-nous qu'est-ce que tu fais ici.
Alors moi je suis brand manager pour la marque De'Longhi, le leader de la machine expresso en France et dans le monde. Et donc du coup j'ai la chance de représenter la marque aujourd'hui sur le Paris Café Festival.
Je suis trop contente et honorée d'être avec vous.
Nous aussi.
Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la présence de De'Longhi est si importante au Paris Café Festival?
Comme je te le disais, on est leader de la machine espresso dans le monde et ça vient avec quelques responsabilités. Et une de nos responsabilités chez De'Longhi, c'est justement de promouvoir le café en grain pour avoir un grain qui est fraîchement moulu, qui est encore meilleur à la dégustation. Et pour pouvoir promouvoir correctement le café en grain, ça passe aussi par la promotion du café de spécialité. Ici au Paris Café Festival, c'est un peu le rendez-vous incontournable du café de spécialité en France. Donc c'est très important pour nous d'être présents, de soutenir la filière et les acteurs de la filière café. Et puis, on avait aussi envie de proposer à nos visiteurs une jolie expérience autour du café. Donc, on a essayé de rendre notre stand et notre présence ici la plus expérientielle et la plus immersive possible. Et on a toute une équipe de baristas passionnés qui sont là pour montrer tout le savoir-faire, montrer ce qui est possible de faire et expliquer à nos visiteurs que c'est important d'utiliser du bon grain dans leur machine.
Le stand est super beau, il est vraiment à l'image de De'Longhi.
Oui.
J'ai eu l'opportunité d'y passer plusieurs fois et je trouve ça cool de voir que De'Longhi se promouvoit vraiment le café de spécialité. C'est un truc qui m'a vraiment marqué chez vous. Quand j'étais sur votre site internet, les premières fois où on a commencé à discuter, je ne me doutais pas qu'une marque aussi finalement grande que De'Longhi actuellement allait s'intéresser à tout ce qui était plus petit, donc petit producteur, petite marque de café, etc. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve cool. C'est des chouettes valeurs.
Oui, on essaye autant qu'on peut de pousser le café de spécialité. On travaille avec plusieurs torréfacteurs dont on promeut aussi tout le travail, tout le savoir-faire, toute l'expertise. Et on a aussi sur nos pages, que ce soit notre site internet De'Longhi.com, on a un espace qui s'appelle Coffee Lounge dans lequel on promeut aussi des recettes à base de café de spécialité et des torréfacteurs pour bien montrer tout le travail extraordinaire qu'ils font. Et puis aussi sur nos réseaux sociaux, on essaye de mettre en lumière et en valeur le travail des torréfacteurs.
Bon bah merci Victoire.
Merci à toi Léa.
C'était trop cool, trop intéressant. Là je vais aller voir Nir, un expert
du café et de vos machines à café que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises. J'ai trop hâte. On y va.
Je suis très contente de te voir ici, Nir.
Ouais, c'est super cool. Moi, je suis vraiment super ravie de faire ce petit podcast avec toi. Surtout que j'adore les podcasts.
Ah ouais, ouais. T'es essentiel à ce podcast parce que t'es un expert de longue vie. J'aimerais que tu te présentes. Qui es-tu? Que fais-tu?
Alors, moi, je m'appelle Nir Shushana. Je suis un ancien chef barman dans le monde du luxe, hein, puisque moi, j'étais un ancien chef barman de Palace. J'ai eu une petite carrière de restaurateur aussi, parce que j'avais un restaurant italien à Paris. Mais très rapidement, la boisson m'a rattrapé et je me suis spécialisé dans l'événementiel et par la suite beaucoup plus dans le conseil. Et je suis expert en gastronomie liquide. Donc en fait, moi, tout ce qui se boit et qui est bon, ben, c'est mon truc, quoi.
C'est trop cool. J'avais jamais entendu parler de toi. C'est trop bien. Ça fait plusieurs fois qu'on se voit autour de DeLonghi, justement, à des événements, à des moments un peu plus de formation, etc. Pourquoi? Enfin, d'après toi, est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce que c'est une évidence que je travaille avec DeLonghi en ce moment?
Moi, je vais déjà te raconter pourquoi je travaille avec les espresso broyeurs et ensuite pourquoi j'ai atterri avec DeLonghi. En fait, les espresso broyeurs, c'était le meilleur moyen que j'avais trouvé à un moment donné de vulgariser entre guillemets le grain pour les gens. Quand on est à la maison, on a envie de savoir ce qu'on boit. Alors moi, je suis dans un monde gastronomique, comme je te l'ai dit, et j'ai envie de savoir d'où vient le café. Comme j'ai envie de savoir quel torréfacteur l'a travaillé, maintenant on en est à quel cultivateur l'a fait pousser, tu vois. Donc ça, c'était une évidence pour moi de travailler avec du grain. Avoir un moulin et une machine à la maison, c'est d'abord cher. Ensuite, c'est contraignant parce que c'est très sale, on en met un peu partout, il faut énormément de technicité. Donc je me suis orienté vers les espresso broyeurs très rapidement pour vulgariser le café en grains. Et puis j'en ai testé plusieurs, et ce qui m'a vraiment séduit chez DeLonghi, c'est qu'il n'y avait aucune concession qui était faite sur l'espresso, sur la technologie espresso. D'entrée de gamme jusqu'au haut de gamme, c'est la même technologie sur l'espresso. Après, on boit du lait, on met un peu plus d'argent, on veut un écran tactile, on met un peu plus d'argent, qu'elle soit connectée ou qu'elle ait des bacs interchangeables, eh ben on met un peu plus d'argent. Enfin, après, c'est des options en fait, mais c'est un peu comme une voiture. Ce que tu attends d'une voiture d'abord, ben, c'est qu'elle a un moteur, 4 roues et un volant. Et des freins, si c'est bien les gens, c'est vrai, c'est important. Et en fait, c'était ça l'évidence. C'était qu'il n'y a pas de concession faite par rapport au budget. L'expresso est toujours bien traité et c'est toujours le même. Et c'est une super base pour après, toi qui adore le latte art par exemple, tu vois, on ne fait pas un bon latte art si on n'a pas un bon espresso de base.
Non, c'est clair. Et moi, personnellement, quand j'ai commencé justement à deep down dans le café, j'ai vraiment ressenti ce besoin de pouvoir reproduire ce que je voyais dans un coffee shop à la maison. Et quand DeLonghi m'a approché, j'ai tout de suite pu tester différentes gammes et voir un peu les différentes machines. J'ai trouvé la mienne, j'en suis très très contente et j'ai vraiment l'impression d'avoir un coffee shop à la maison, quoi.
Ah ouais, mais c'est super ce que j'entends parce que je me dis on a réussi une partie de notre pari.
Et j'ai vraiment l'impression aussi d'évoluer à travers les machines. Elles peuvent autant être utilisées de façon très simple que de façon beaucoup plus précise et minutieuse. Elles peuvent s'upgrade, mais elles sont déjà très facile d'utilisation et très belle aussi.
Moi j'ai une confidence à te faire, je suis désolée, elle m'était accro.
Non mais oui, et quand les gens viennent chez moi, évidemment je suis la barista du quartier. Genre vraiment.
T'es condamnée. Prochaine étape, tu ouvres ton coffee shop avec un espace dédié au podcast.
Exact.
Bon Léa, moi tu me dis depuis tout à l'heure que ta machine elle est complètement débrayable, je suis quand même curieux, c'est bien une spécialista que tu as.
Exactement, et je vais d'ailleurs l'upgrade avec la spécialista Opéra qui sort bientôt. J'ai entendu, mais en fait c'est toi qui me l'as montré, c'est toi qui m'as fait la démo, elle a des nouvelles spécificités pour du café un peu plus cold brew. Tous les gestes barista à la maison, je les ai dans cette machine.
Et tu t'en sors avec les gestes barista justement parce que c'est quand même pas simple, tamper à la base. Tu fais quoi? Tu utilises le smart tamping ou tu t'es pris un petit tamper à côté parce que...
Et non, j'utilise le smart tamping. En fait, tout est intégré et c'est hyper simple de se faire un café. En plus, j'ai programmé déjà des recettes sur ma machine. Donc, j'ai plus qu'à appuyer le matin. Mon café sort parfaitement. Bon grammage, bonne seconde. J'ai plus qu'à le boire.
Et alors, pour le lait, tu vas voir parce qu'avec la nouvelle buse vapeur, tu vas te régaler parce qu'en fait, elle mousse vraiment, vraiment, vraiment plus que l'ancienne. Ah, ça, c'est même pas upgradé, c'est changé quoi. Enfin, tu verras, tu vas te régaler, mais vraiment tu vas te régaler. Elle est géniale cette machine.
J'ai trop hâte. En plus, j'ai prévu de faire une petite réunion café chez moi avec mes amis. Un peu d'ouvrir un coffee shop à la maison, de tous les invités, faire du petit latte art et faire plein de boissons. J'ai trop hâte, je crois que ça va être trop cool.
Ah, c'est super. Puis alors, l'avantage d'avoir une buse vapeur comme ça, c'est que même si tu as des copains ou des copines qui sont pas du tout lactose, tu vois, qui sont lactose free ou autre, ou même si tu as des gens qui aiment pas le café, tu peux quand même faire des lattés avec, et tu peux quand même faire des chocolats en mettant du chocolat et mettre du lait, tu vois, parce que tu peux chauffer ton lait à part. Il n'y a pas de pré-mélange ou quoi, c'est vraiment... En fait, moi, ce que j'aime, c'est que La Specialista, pour moi, c'est vraiment le maillon manquant entre le pro et la full auto, tu sais. C'est-à-dire que tu es quand même assisté, on va pas se mentir, tu es quand même vachement assisté.
Bien sûr, ah ouais.
Mais tu as la liberté de partir dans des limbes complètement stratosphériques, de t'amuser, là, voilà, de prendre pour un coffee shop, ça c'est cool, quoi, en fait.
Et puis bah, finalement, moi, j'ai appris à faire mes premiers espressos sur la Specialista, quoi.
Non, mais c'est top.
J'évolue avec ma collaboration avec DeLonghi, c'est trop chouette.
Non, mais c'est génial. Mais en tout cas, moi, je peux dire que je suis très content de te voir à chaque fois quand tu viens nous voir un peu sur les salons. Je suis très content de te voir quand tu viens nous voir sur les journées presse. Tu vois, je pense qu'on a besoin de gens comme toi qui finalement ne sont pas juste des professionnels du café, mais au contraire des professionnels du goût et du bon vivre. Parce que tu sais, finalement, on ne fait pas des machines à café pour les mettre dans les restaurants. Nous, on fait des machines à café pour les mettre à la maison. Donc si les gens prennent cette passion du goût, ils seront aussi beaucoup plus exigeants avec les restaurants. Quand tu bois bon chez toi, bah, tu as envie de boire encore meilleur dehors. Donc en fait, pour moi, c'est, enfin, tu vois, j'en ai des frissons, c'est mission accomplie, quoi. C'est top, quoi. Moi, je suis vraiment ravi d'avoir des gens comme toi autour de nous, parce que ouais, c'est un combat de longue haleine, hein, quand même, hein, pour arriver à dire aux gens, c'est pas juste un café, c'est pas juste une machine à café. Et ouais, c'est vraiment cool que tu t'y intéresses, que des gens comme toi, tu vois, qui aient des vrais esthètes du goût et du savoir-vivre et du quotidien, quoi, en fait. Tu vois, comme tu as dit, ta machine, elle est pré-réglée, tu appuies sur un bouton, tu as un café, elle est belle, l'histoire, quoi.
Merci beaucoup, j'ai hâte de te revoir bientôt.
Ben écoute, tu vois, regarde, on a encore cette journée du Paris Café Festival à finir. On enchaîne après, puis ouais, dès que je t'ai entre les mains, t'inquiète pas,
je viendrai voir ton café.
Ah, oui, exactement. Écoute, j'en peux plus, j'ai du plâtre jusqu'aux oreilles, mais ça va être tellement beau. On a découvert des trucs incroyables derrière les murs. Et,
il s'appelle comment ?
Ça va s'appeler Oh My Cappuccino. Oh My Cappuccino.
J'ai hâte. Merci, Mia.
Ah, je t'en prie, Léa. Merci à toi de m'avoir interviewé, c'était génial. Merci.
Je suis maintenant avec Amandine de chez DeLonghi et Caroline de chez Belco, des acteurs hyper importants dans le monde des cafés de spécialité aujourd'hui. Je vais vous laisser vous introduire.
Salut Léa, donc c'est Amandine de chez DeLonghi. Je gère les partenariats et les RP pour le groupe. DeLonghi, c'est avant tout soutenir la filière café et expliquer aux consommateurs qu'il faut boire du café de meilleure qualité. Du café de terroir, ce qu'on appelle du café de spécialité, parce que ben, avant tout, les machines DeLonghi, c'est un pont entre du grain de café et le résultat en tasse. Le café, c'est avant tout une histoire de passionnés, c'est une histoire d'hommes, et on a eu la chance de rencontrer Belco et toute l'équipe de Belco, parce qu'on a toujours soutenu les torréfacteurs et la filière café, mais derrière les torréfacteurs, il y a des grains de café, il y a des producteurs, il y a des cueilleurs, et il y a toute une dynamique.
Mais c'est vrai que dans la filière du café, il y a un peu un point d'interrogation, et je pense qu'il y a un manque de connaissances et peut-être aussi un peu d'intérêt pour le moment du consommateur. D'où vient le café ? Et en fait, si je ne dis pas de bêtises, le rôle de Belco, c'est justement de mettre en relation les fermes, les fermiers, faire en sorte qu'eux puissent vivre de leur ferme, et les torréfacteurs, donc les cafés, donc les consommateurs. C'est en fait un peu la chaîne de transparence. C'est la transparence qu'il n'y a pas dans le café de commodité, mais qu'il y a avec vous. Je dis une bêtise ou pas ?
Non, tu dis pas du tout une bêtise. Bonjour à Amandine, Léa, du coup très contente de pouvoir échanger avec vous. Donc je vais peut-être juste faire un petit récap de qui est Belco. Effectivement, et après répondre à ta question, puisque ce n'est pas du tout une bêtise. Donc Belco, c'est une entreprise sourceur de sourcing de café vert, de cacao et d'équipement, de café spécialité. On source du café durable et traçable depuis l'origine pour ensuite les distribuer auprès des torréfacteurs en Europe. On a aujourd'hui Belco à des agences de sourcing en Éthiopie, au Guatemala, en Colombie et au Salvador, ce qui nous permet effectivement d'être sur le terrain pour accompagner les producteurs dans l'amélioration de la qualité des cafés, dans l'accompagnement de pratiques agricoles, dans un objectif que le café qu'on source ait un impact environnemental et social. Pour le producteur, les communautés qui vivent autour du café. Et ensuite, effectivement, l'objectif, c'est que grâce à ces agences de sourcing et tout le contenu qu'on récupère à l'origine et tous les projets dont on va parler juste après qu'on a avec DeLonghi, c'est de pouvoir apporter au torréfacteur un maximum d'informations sur le café que l'on source pour que lui, derrière, le torréfacteur, puisse donner ces informations au consommateur final.
Trop bien. C'est essentiel dans le monde des cafés de spécialité, je pense.
Effectivement, d'apporter de plus en plus de transparence. L'objectif de Belco, in fine, c'est de pouvoir être transparent sur la totalité de la chaîne. Aujourd'hui, on a un gros projet aussi qui va bientôt voir le jour. C'est à partir d'août, on aura des cafés qui vont partir à la voile.
Trop cool.
Donc toujours des certains objectifs de pouvoir avoir une transparence sur la totalité de la chaîne, et de pouvoir donner des indicateurs clés depuis la rémunération du producteur jusqu'à la partie transport et puis ensuite l'arrivée chez le torréfacteur.
Trop cool, hyper clair. Et je sais que Amandine m'avait parlé d'un projet qui lui avait tenu à cœur. Et en vrai, on pourrait, toi et moi, faire un épisode de podcast complet parce que tu as vécu plein de choses dans le monde du café. Tu as rencontré aussi plein de gens. Tu as eu l'opportunité de voyager et d'aller au cœur des fermes, si je ne dis pas de bêtises. Tu veux nous parler d'un projet qui tient à cœur et qui tient à cœur à DeLonghi?
Oui, avant, je voulais faire juste une petite parenthèse parce que, avant tout, les producteurs définissent une tasse de café, si je ne me trompe pas, Caroline, plus respectueuse comme une tasse de café qui va respecter le sol, qui va respecter la biodiversité, les caféiers, mais aussi les travailleurs et les cueilleurs. Et une tasse de café respectueuse, c'est aussi qui utilise des grains fraîchement moulus, qui permet aussi de développer toute l'aromatique dans le café. Et donc, le projet que Belco a mené avec nous, c'est le projet Senderos, parce que Senderos, ça veut dire sentier en espagnol. C'est un projet qui est une rencontre entre Belco et Sudus. Sudus est une association colombienne qui est spécialisée dans la biodiversité et la pollinisation dans les fermes, chez les producteurs. Et le but, c'est de planter des couloirs de fleurs pour ramener cette pollinisation et cette biodiversité chez les producteurs. Donc on a commencé en les soutenant autour de 20 fermes en Colombie, dans la région de Renova. Et on espère que les torréfacteurs, maintenant, vont acheter ce café vert pour pouvoir réinvestir dans 40 fermes, pourquoi pas, l'année prochaine, et 100 fermes peut-être en 2026. Donc, en tout cas, nous, on soutient ce projet et maintenant, il faut que plein de gens achètent ce café.
Et qu'est-ce que chacune vous souhaitez pour le monde du café de spécialité dans les années à venir ?
Que chacun trouve du plaisir à boire la tasse de café qui lui correspond, que ce soit un café qui soit un joli café qui soit durable et qui respecte en fait toute la chaîne que j'ai évoquée un petit peu plus tôt.
Ça rejoint pas mal ce que disait Amandine, pareil, que le café de spécialité soit de plus en plus répandu, ça sera mieux pour notre planète aussi et pour les producteurs, et puis qu'effectivement chaque consommateur final amateur de café puisse se retrouver dans différentes tasses, différents process, différentes variétés, et que ça soit plus facile de comprendre d'où vient le café, où est-ce qu'il a été cueilli, par qui, de quelle manière, comment il a été séché, etc. Donc qu'il y ait un peu plus de, voilà, une démocratisation du café de spécialité. Voilà.
Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier aujourd'hui ?
Évidemment, de cuper, tout simplement, et de continuer à apprendre toutes les variétés des cafés, les nouvelles variétés, les tendances. Et en fait, on a la chance d'avoir des personnes qui sont passionnées, d'avoir le lien directement avec nos agences en Éthiopie, Colombie, Guatemala et Salvador, qui nous permettent d'avoir énormément d'infos du terrain. Donc, en fait, enrichir notre connaissance par rapport à la production du café. Et bien sûr, voyager quand on en a l'opportunité. C'est super de pouvoir rencontrer les producteurs avec lesquels on travaille. Et puis aussi, c'est un peu long, mais il y a pas mal de choses que je préfère, mais il y a aussi la rencontre avec les torréfacteurs à qui on vend le café, où il y a des relations très fortes. En fait, dans les deux cas, chez Belco, on a des relations fortes avec les producteurs, et puis aussi sur le terrain en France et sur les autres pays européens, où quand on rencontre les torréfacteurs avec lesquels on travaille, c'est un vrai plaisir aussi de pouvoir échanger autour du café et de l'extraction de manière générale.
C'est trop cool parce que ce que je retiens de notre discussion et même de mes discussions en général dans le monde du café et même de ce que je vois, c'est que c'est avant tout de l'humain. que ce soit dans les fermes, que ce soit l'importation, que ce soit nous, comment on travaille chez De'Longhi, c'est on a une passion autour du café, mais c'est avant tout des personnes qui se réunissent. Et même dans un coffee shop, finalement, à la maison, autour d'un café, etc. Donc, merci beaucoup.
Juste rajouter que tout le monde n'a pas la chance de voyager et que, quelque part, les torréfacteurs, ils te permettent de voyager à travers la tasse et d'expliquer qu'est-ce qui correspond à tes goûts et à ton envie de voyage aussi. Et ce n'est pas élitiste, c'est vraiment, on te conseille d'aller chez ton torréfacteur pour découvrir la tasse qui correspond à tes envies de dégustation, à tes envies de voyage aussi. Et c'est très important d'inciter justement peut-être tous tes auditeurs à dire allez chez votre torréfacteur pour découvrir le café autrement et le café par cette notion de voyage.
Merci beaucoup à vous deux, c'était hyper intéressant et hyper nécessaire surtout.
Merci à toi.
Là je vais rejoindre Christophe, je vous avoue. On s'est déjà rencontrés à plusieurs reprises, je veux faire un épisode de podcast avec lui, c'est un des acteurs les plus importants dans le monde du café de spécialité en France et même, si je dis pas de bêtises, dans le monde en soi. Et j'ai hâte de lui parler, je suis un peu stressée, j'avoue. C'est toujours une petite appréhension quand c'est des grandes personnes comme ça qui ont tellement de connaissances et qui ont tout à m'apprendre, mais j'ai hâte. Je suis un peu stressée.
Coucou Christophe.
Bonjour.
Ça va ?
Bien, et toi ?
Je suis contente de te recroiser.
Bah oui, on se croise dans le café, on se croise souvent.
Exactement, on se fera un épisode de podcast ensemble en entier parce que tu as beaucoup, beaucoup de choses à te dire.
Oui,
j'ai vraiment, vraiment hâte. Mais présente-toi en quelques mots. Et...
Alors rapidement, je suis le fondateur de Terre de Café. Je suis torréfacteur aussi, enfin j'ai longtemps torréfié. Je torréfie moins maintenant, je m'occupe plus du sourcing et du développement de la société. Mais en deux mots, Terre de Café, source. Torréfie et distribue des cafés de spécialité assez haut de gamme.
Comment définirais-tu le métier de barista ? Est-ce que finalement être barista, c'est savoir faire des jolis latte art ?
Alors barista, c'est bien plus que savoir faire des jolis latte art. Être barista, déjà, c'est un métier de passion. Barista, c'est un engagement parce que barista, il s'agit de connaître assez bien le café et les techniques du café pour être capable de sublimer déjà un café et de le sublimer 300 ou 400 fois par jour de la même manière. C'est-à-dire que quand on est dans un coffee shop ou une boutique de café, un vendredi ou un samedi ou un dimanche où il y a la queue, il faut savoir, le métier d'un barista, c'est d'honorer les cafés qu'on lui donne, donc d'honorer le travail des fermiers, d'honorer le travail du torréfacteur et d'honorer ses clients. Et pour ça, il faut être hyper précis, hyper régulier, hyper professionnel.
C'est quoi les qualités d'un bon barista ?
Un bon barista, c'est... Ah, il faut être passionné, je le redis. Il faut aimer apprendre parce que le café, on a une représentation du café encore en France, mais ça change. Un café, c'est un café, quoi, en gros. Mais en fait, le café, c'est très complexe. C'est aussi noble que le vin. C'est un produit de terroir. Et donc, le barista, il doit être curieux et apprendre ça. Ça n'est pas juste un café. Il faut savoir d'où ça vient et comment c'est fait. Et quand on sait d'où ça vient et comment c'est fait, on arrive à mieux travailler son café. Et ça, c'est vrai. Pour plein de raisons, on va passer, on peut en parler plus tard si tu le souhaites, mais plus on connaît le produit et même plus on sait comment c'est fait, plus on arrive à bien le travailler. Donc le savoir, avoir envie de savoir, d'apprendre, et puis après c'est de la précision. Un bon barista va peser chacun de ses shots, le poids de son café, il va faire attention à la qualité de l'eau qu'il met, et puis il va peser le poids d'eau qui tombe dans ses tasses pour être hyper régulier et toujours faire la même recette de café qui va garantir le bon goût, qui va garantir l'aventure sensorielle du client.
Tu es un acteur principal dans le monde du café de spécialité en France. Tu agis aussi beaucoup dans les pays, justement, auprès des fermes, etc. Est-ce qu'on peut aborder très rapidement la question de durabilité dans le monde du café de spécialité ?
Alors, la question de durabilité, c'est un enjeu fondamental pour la filière dans son ensemble. La filière traditionnelle, on va dire conventionnelle, du café de commodité, mais comme toutes les filières d'agriculture intensive, a un peu trop tiré sur la corde. Et donc, on a de moins en moins de forêts. Je rappelle que le caféier est un arbuste de forêt. On a des sols de plus en plus lavés par des traitements chimiques. Et on a de moins en moins de caféiculteurs parce que le café ne se vend pas assez cher sur les marchés conventionnels. Donc l'aspect de la durabilité dans le marché du café, c'est un enjeu crucial parce que c'est ça qui va nous garantir le fait que dans 50 ans ou dans un siècle, il y aura encore du café à boire. Voilà. Donc là, la durabilité, après, on la définit assez bien. La durabilité, elle est économique. Donc il faut faire des cafés de qualité qui sont vendus plus cher. Et aujourd'hui, il y a un marché qui achète ces cafés. C'est ce qu'on voit ici, c'est le marché du café de spécialité. Ensuite, elle est environnementale. Il faut respecter les sols, il faut respecter les arbres, il faut respecter l'eau. Il faut respecter aussi les gens et la biodiversité en général. Et après, elle est sociale. Il faut, comme on vend ces cafés plus cher quand on est producteur de café de spécialité, on rémunère mieux les gens qui travaillent sur les fermes. Ce sont des permanents, en plus des travailleurs saisonniers. Et tout cet ensemble-là, qui est un petit peu complexe, c'est ça la durabilité dans le café.
J'ai tellement trop de questions à te poser.
Vas-y.
Mais non, mais on se posera dans un canapé, un podcast filmé, je te promets,
avec
j'ai
plaisir.
Trop de questions. Mais j'ai une question qui me brûle les lèvres et qui est vraiment une question assez perso. Qu'est-ce qui se passerait si demain, le café de commodité, donc c'est-à-dire celui qu'on peut retrouver en grande surface, etc., n'existait plus et que c'était plus que du café de spécialité? Mais si c'était comme ça, demain, drastiquement, versus si c'était de façon progressive jusque dans 10 ans?
Alors, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus de commodité? Il se passerait que le café coûterait très très cher et qu'on en boirait beaucoup moins, mais beaucoup mieux. Et nous, on milite pour ça. C'est-à-dire, moi, je source du café, je vends du café. On dit à tous mes clients, buvez moins de café, parce que c'est plus cher, le beau café, et pas beaucoup plus encore. Et ça ne peut qu'augmenter. Quand on sait que les surfaces agricoles dédiées au café vont baisser de 50% parce qu'il fait trop chaud d'ici 50 ans, enfin même pas 30 ans, il y aura beaucoup moins de café. Donc, ce que tu dis, du jour au lendemain, ce ne sera pas ça, mais ça va être ça. C'est-à-dire que ça va être ça progressivement. Donc il faut apprendre ce que c'est que le café, se contenter d'une super bonne tasse de café et en boire moins et mieux. Le café, je le répète pour ceux qui ne le savent pas, n'est pas un produit vital. Ça réveille, la caféine, ça met bien sur les bons cafés, ça peut mettre aussi mal sur les mauvais. Et donc on a besoin de manger, on a besoin de boire de l'eau pour vivre, mais le café, ce n'est pas vital. Donc 2 tasses de café par jour, 3 tasses de café par jour, si c'est bon, ça suffit largement. Et c'est ça le truc. Si demain, il n'y a que du specialty, eh ben, on boira mieux et moins.
Merci beaucoup, Christophe.
Avec plaisir.
Vraiment, je t'adore, c'est trop intéressant. Ouais, vraiment, merci beaucoup.
Quand tu veux.
Avec plaisir, j'ai hâte.
On se fait un canapé.
Ok, je quitte Christophe. J'ai trop hâte de le prendre sur un épisode de podcast en entier parce que c'est trop intéressant. On ne se rend pas compte quand on n'est pas dans le monde du café de spécialité, mais c'est un des acteurs principaux de ce monde-là. Il agit directement sur le terrain auprès des fermes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cet été, j'ai été visiter Volcan Azul, une ferme au Costa Rica. J'ai rencontré Alero. Et Alero, justement, travaille avec Christophe Servelle pour améliorer les conditions de sa ferme, les sols, la qualité de son café, du coup. Et ouais, c'est un acteur qui est sur le terrain et en même temps qui est ici aussi. Vous êtes certainement déjà passé devant un terre de café. Ils ont des cafés vraiment super.
J'aimerais beaucoup aller voir Wide Awake. Wide Awake, c'est des torréfacteurs belges. Et c'est cool qu'ils soient au Paris Café Festival.
J'ai un podcast qui s'appelle Simple Caféine. Je crée du contenu sur les réseaux. Tu travailles pour Wide Awake ou tu es un des fondateurs de Wide Awake?
Moi, je suis Damien. Je travaille chez Wide Awake à Bruxelles et je suis chef torréfacteur. On est vraiment très présents sur Bruxelles, mais on est aussi très présents. Enfin, on commence à être de plus en plus présents en Europe en général. On a envoyé nos premières commandes aux US aussi il n'y a pas longtemps.
Bravo.
Mais on est principalement sur l'Europe et le but, c'est pas non plus de s'étendre trop hors Europe parce qu'il faut aussi garder en tête que le café voyage énormément et si on renvoie à chaque fois sur des pays très lointains, quel est l'impact écologique, etc. à ce niveau-là.
C'est quand même la base un peu du café de spécialité.
Voilà, c'est ça.
En quoi consiste le métier de torréfacteur pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont aucune idée de ce que c'est?
Donc en gros, il y a le métier de torréfacteur, donc c'est torréfier le café, mais il y a plein de choses qui vont avec. Donc, ça commence de la sélection du café vert, ça aussi je suis quand même assez impliqué là-dedans. Donc on va recevoir des échantillons, goûter les cafés, et je parlais de noms de lignes comme le Strawberry Field, on a le Juice Box, l'Easy Rider. Et donc en fait, quand on sélectionne des cafés, on garde ça en tête, on se dit « Ah tiens, ce café un colombien, il est vraiment sympa, c'est un profil aromatique qui irait bien sur le Strawberry Field ». Donc on le sélectionne. Donc il y a la sélection du café qui est extrêmement importante. C'est peut-être, je dirais, 75% du boulot. C'est sélectionner un très bon café dès le départ, avoir un bon relationnel avec les importateurs, les producteurs. Et ça, du coup, ça va nous permettre d'avoir une bonne base. Ensuite, les cafés arrivent chez nous et on a déjà, en ayant goûté les échantillons, une idée de vers où on veut les amener. Et donc, à partir de là, je vais torréfier quelques batch tests et on va cuper ensemble avec l'équipe pour être objectif le plus possible. Ce n'est pas que mon opinion qui compte, c'est aussi celle des autres.
Ça veut dire que tu vas goûter selon un procédé.
Voilà, exactement. Et donc, on va se dire, OK, tiens, ce profil-là de torréfaction correspond le mieux. Et on le sélectionne, on l'enregistre. Et donc, on va torréfier toujours le café de cette manière-là, de manière à avoir une stabilité parfaite pour que les clients ne voient pas de différence entre chaque torréf. Donc ça, c'est une partie du boulot. Mais il y a aussi tout ce qui est contrôle qualité.
Oui.
Donc toutes les semaines, au moins 3 fois par semaine, si pas 5 fois, on goûte nos cafés pour être sûr que tout soit OK, pour vérifier que la complexité du café vert aussi, la qualité du café vert soit toujours au top. Donc on essaye de ne pas garder le café vert trop longtemps non plus chez nous. Donc d'avoir des quantités de café raisonnables pour ne pas avoir le même café encore au bout d'un an, parce que le café vert va vieillir et perdre en complexité. C'est vraiment très vaste le métier de torréfacteur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Maintenant, on utilise beaucoup de data aussi. Donc ça nous permet d'avoir un meilleur suivi et de pouvoir expliquer au mieux ce qu'on fait et mettre des chiffres sur des mots et sur des interprétations. Et très difficile à résumer.
Ben oui, mais c'est, on pourra en parler pendant des heures. Et en fait, je pense que pour vraiment comprendre le métier de torréfacteur, il faut le voir. Merci beaucoup pour ton temps. J'aimerais
Merci
beaucoup vous rendre visite à Bruxelles.
Mais avec grand plaisir, avec grand plaisir. On va rester en contact.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Et bon festival.
Alors là, j'ai l'impression d'être dans un parc d'attractions. Et en même temps, je me sens comme à la maison. C'est une sensation très, très bizarre. Tout le monde est beau, tout le monde aime le café. Qu'est-ce que c'est rassembleur, les événements comme ça? Et j'aperçois Alexis, qui est mon prochain rendez-vous. De Longhi m'introduise à tout le monde. J'ai vraiment l'impression d'être comme une gosse. Quelle opportunité, les gars. Je trouve ça trop cool de rencontrer toutes ces personnes. OK. Coucou. Salut, Alexis.
Enchanté.
Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Que fais-tu?
Je suis Alexis, donc le cofondateur de Kawa. Ça fait 8 ans qu'on a créé Kawa. Donc c'est un torréfacteur de café de spécialité. Notre but est de mettre en valeur le travail des producteurs. Donc on achète tous nos cafés en direct des producteurs, mais surtout on fait aussi un travail sur la sélection où on essaye d'amener des goûts très très différents pour montrer ce qu'est le café et le café de spécialité, ce qui est en fait des cafés qui vont aller de notes de chocolat à des notes de banane, de fraises, de rose, de jasmin. Et on essaie de mettre en avant les variétés qui sont l'équivalent des cépages dans le vin. Et aussi tous les process de fermentation des cafés qui apportent aussi des notes un peu particulières au café.
C'est vrai que vous avez pas mal de cafés funky.
Ouais, aussi.
Quand j'ai besoin de montrer jusqu'où peut aller le café de spécialité à des amis qui ont l'habitude d'aller encore dans des grandes chaînes et de boire du café qui est pas super super bon du tout, je leur fais goûter les vôtres.
Ah, génial, merci. C'était un peu le but. En fait, on a 3 sélections, 3 catégories. Terroir, qui est vraiment ce côté très classique. Mais après, on peut aller du côté classique chocolaté à des choses beaucoup plus complexes, mais sur des cafés beaucoup plus chers. Ensuite, on a les funky. Donc là, on commence à être sur des notes peut-être un peu de fermentation, des notes beaucoup plus pétées. Et après, on a les surnaturels. Aujourd'hui, surtout en Colombie, il y a des cafés qui sont infusés avec de la fraise, avec du kiwi, avec la noix de coco. Alors, c'est pas forcément ce que nous on préfère, mais par contre c'est des cafés qui permettent vraiment de faire comprendre le café de spécialité, parce que le café de spécialité c'est très subtil, et au moins ces cafés là ont des notes tellement démarquées, on se dit ah bah on peut vraiment avoir de la fraise dans le café, et d'une manière quand même beaucoup plus subtile que les cafés infusés qu'on a connus à une certaine époque, qui n'étaient pas très bons et très synthétiques.
C'est fou cette proximité que vous avez avec les fermes, c'est ça, vous êtes en direct?
Oui, oui, tout à fait.
C'est un choix de rester en direct alors que vous pourriez passer par d'autres personnes. Ça te permet d'aller directement sur le terrain?
Alors on a, pour être complètement transparent, on a 20% de notre travail qui est en direct complètement. On a une ferme en Équateur, où on est quasiment un des seuls en Europe à l'avoir, au Costa Rica. Ensuite, tous nos cafés du Panama sont achetés en direct. Et ensuite, il y a quand même des pays où on a besoin de partenaires. Donc là, le travail de l'importateur est super important. Il ne faut pas le dévaloriser parce qu'en fait, il y a l'importation de cafés de volume qui ne sont pas tracés et il y a l'importation de café où on va connaître tel ou tel producteur et où on va pouvoir aller justement avec l'importateur rencontrer le producteur.
Je passe du coq à l'âne, mais c'est quoi pour toi les qualités d'un bon barista? Parce que j'essaye de sensibiliser moi ma communauté au café de spécialité. Et j'essaye aussi, là je commence une série de réels où je vais dans des coffee shops et où j'essaye de parler des grains et du café en lui-même et pas juste de parler de l'esthétisme. Et c'est vrai que quand on parle de café de spécialité, au début ce qui nous attire un peu tous, et moi je suis tombée dedans comme ça, c'est les beaux latte art.
Alors je rebondis là-dessus parce qu'on critique souvent le latte art quand on adore le café. Moi j'avoue que je bois très peu de café avec du lait. Néanmoins, le latte art, il a quand même une nécessité et un avantage, c'est que le fait qu'on arrive à faire un beau latte art va apporter une texture sur le lait qui va apporter un meilleur goût. Derrière, les gens qui font du latte art logiquement achètent du bon café, donc aussi ça crée un changement. Et là, ta question c'est qu'est-ce qu'un bon barista?
Ouais, les qualités d'un bon barista.
Pour être un bon barista, pour être un bon torréfacteur, surtout, en fait ça prend des années, parce que c'est des années à comprendre le café, à essayer les cafés, à améliorer ses recettes, ses connaissances sur l'eau, le café, l'extraction. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on a des gens très, très sérieux qui font hyper bien leur boulot. Et après, il y a un truc qui est un peu obligatoire, c'est le customer service. Je crois que c'est ça qui est aussi sympa dans les coffee shops, c'est qu'il y a une certaine proximité, on a tendance à plus se tutoyer. C'est toujours cool de se sentir un peu comme un habitué, comme d'être bien accueilli. Quand on a tout ça, là, on est au top.
Comment tu vois l'évolution du monde du café de spécialité dans les prochaines années à venir?
En France ou dans le monde?
Ah, c'est une bonne question.
Je peux répondre aux deux.
Bah, franchement, si tu peux, oui.
L'évolution du café de spécialité en France, à mon avis, a une très belle perspective. Alors, moi, je prends le côté championnat de café, qui un peu montre, on va dire, l'expertise qu'on a sur le café. En fait, on a énormément évolué. On a des candidats, des compétiteurs qui sont incroyables. Et à côté, comme je disais, on a beaucoup de cafés qui font cet effort d'avoir des cafés chers, des cafés particuliers. Et donc, la France va être une petite scène. Malheureusement, ça va peut-être être... On va beaucoup parler de Paris, parce qu'on a un pays qui est très centralisé sur Paris. Mais en tout cas, je pense que Paris va être une destination café, parce qu'on amène le café comme on a amené le vin, comme on amène la gastronomie. On arrive enfin à ce niveau-là. Nous, on a une vision où on a envie d'apporter beaucoup de cafés différents, beaucoup de choses spécialisées. Mais bon, c'est un peu différent dans le monde entier. Là, moi, je reviens de Chine, on a fait pas mal l'Europe, on va aller aux États-Unis, et en fait, on ne vend pas de la même manière. Mais par contre, on vend dans 48 pays différents. Donc on a aujourd'hui, via ce travail très spécialisé, je crois une attractivité. Par exemple, aux États-Unis, il y a un coffee shop qui s'appelle Deglo, qui est une espèce de référence de trucs un peu cool. Et eux, c'est les premiers qui se démarquent. Et en fait, ils achètent que des cafés qui viennent d'Europe, quasiment. Donc ça montre quand même qu'on a, en Europe, on a amené un style un petit peu différent. Est-ce que ça va prendre le volume? Peut-être pas, peut-être qu'on restera toujours ce côté un peu niche. Mais bon, le café de spécialité en général ne fera qu'augmenter, je pense. Ça, c'est indéniable.
Trop cool. Bah, merci beaucoup pour ton temps et pour toutes ces informations.
De rien, merci à toi.
Les gars, vous venez d'assister à ma première rencontre avec Alexis. Alexis qui est du coup cofondateur de Kawa. J'ai appris beaucoup de choses à travers leur café. Ils ont une approche que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous êtes intéressé à goûter un café de spécialité très, très funky, c'est-à-dire très, très fruité, très, très, presque thé, je vous conseille de tester ceux de Kawa. Si vous êtes à Paris, encore plus. Et pour la petite anecdote, c'est un des premiers cafés de spécialité que j'ai goûté dans le coffee shop d'une de mes amies à Montréal. Donc ça m'a pas mal marqué et c'est trop cool de pouvoir parler avec Alexis. Pareil, j'espère le recroiser. Ok les gars, je me faufile, je vais chez Brita. Vous demandez peut-être pourquoi. Le café est composé à 90% d'eau. C'est hyper important d'avoir une bonne qualité d'eau. Et ça, on va en parler maintenant. Je vous emmène. C'est une de mes parties préférées. Regarde-moi ce robinet. C'est un robinet, on m'a expliqué. D'un côté, il y a un filtre. De l'autre côté, il n'y a pas de filtre. Donc en fait, tu peux filtrer ton eau pour ton café et puis faire ta vaisselle avec l'autre. Je veux ce robinet chez moi. C'est ma nouvelle lubie depuis 2 jours. Bonjour.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Je vais très bien et toi?
Enchantée. Est-ce que tu peux te présenter?
Alors moi, je m'appelle Adrien et je suis responsable de la division professionnelle de Brita. Brita, c'est une marque de filtration d'eau allemande, familiale. Et on est ravis d'être présents sur, Paris Café Festival.
Pourquoi est-ce que vous êtes ici? On se demande un peu, genre Brita, sur le Paris Café Festival, est-ce qu'il y a vraiment un sens?
C'est une bonne question, parce que c'est vrai qu'on fait de l'eau, on ne fait pas du tout du café. Mais l'eau, déjà, c'est la vie, c'est important. Et quand on prend n'importe quelle tasse de café, un expresso, un café filtre, ou même des tasses de thé, enfin n'importe quelle boisson chaude, le premier ingrédient qu'il y a dans la tasse, c'est l'eau. Dans un expresso, c'est 92%, dans un café filtre, c'est 98%. Donc si je le fais très simple, on peut avoir le meilleur café, la meilleure machine, le meilleur barista, etc. Si on n'a pas une bonne eau, tout le reste est gâché. Donc on est quand même parfaitement légitime et il y a beaucoup de tous les super baristas qui sont autour de nous qui sont très demandeurs d'une bonne eau.
C'est vrai que c'est une des choses qui m'a le plus choquée quand je me suis formée au café justement. Mm-hmm. C'est cette notion de si t'as pas une bonne eau, une bonne qualité d'eau, ton café sera juste pas bon. Donc t'auras beau avoir les meilleures machines, les meilleurs cafés, si c'est pas une bonne eau, ton café sera pas bon.
C'est ça, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent oublié. Et c'est quelque chose qui est en plus compliqué parce que l'eau, c'est tellement particulier qu'il n'y a pas une règle ou une méthode. L'eau, elle est différente partout. En plus, de plus en plus, elle change même parfois pendant l'année. C'est-à-dire qu'on peut avoir une eau au robinet au mois de janvier et l'été, c'est plus la même. Donc, c'est quelque chose d'hyper compliqué. Et c'est quelque chose qui, encore une fois, on pense souvent à la machine, au réglage, au moulin, à la mouture, à plein de choses. Et l'eau, ça a été pendant pas mal d'années un peu le parent pauvre du monde du café. Mais on est ravis, c'est vraiment revenu au centre des préoccupations. On nous pose des tonnes de questions. On fournit plein de choses sur la partie des championnats qui est juste là-bas derrière. Donc,
Et c'est quoi une bonne eau du coup?
Alors, je vais rejoindre ce que je disais juste avant. C'est qu'il n'y a pas une réponse. Et je reprends l'exemple des championnats. On nous demande une eau particulière, par exemple, pour tous les championnats à partir de méthodes douces. Donc le Brewers Cup, le Cup Tasting. Et une autre eau avec une autre minéralité pour l'expresso. Donc une bonne eau, il y a quand même des règles qui sont communes, c'est d'enlever tous les mauvais goûts, les odeurs, les métaux, les résidus de pesticides, il y a toute une série de choses qu'on enlèvera quoi qu'il se passe. Mais après, l'action sur la minéralité de l'eau, elle, on va essayer d'être précis et de s'adapter à chaque mode d'extraction pour ce qui est du café. En gros, pour faire simple, il faut deux fois moins de minéraux pour faire une méthode douce que pour faire un expresso, si je caricature.
Et c'est drôle parce que, encore une fois, quand je me suis formée au café, Brice, qui m'a formé, m'a expliqué qu'il fabriquait sa propre eau.
Ouais.
Et j'ai trouvé ça complètement fou. Je ne savais pas que c'était possible de fabriquer à partir de minéraux, à partir de sa propre eau. Et ça montre l'importance vraiment de l'eau dans le café, quoi.
C'est ça. Et donc après, il y en a comme Brice ou comme quelques autres qui ont vraiment cette connaissance-là et qui vont jusqu'à fabriquer leur propre eau. Et ça, c'est top. Enfin, moi, j'adore. Effectivement, du coup, ils n'utilisent pas la mienne, mais j'adore parce que simplement, c'est des passionnés qui vont au bout du truc, donc c'est génial et ça n'empêche pas d'avoir plein d'échanges avec eux. Et après, pour les autres, nous, ce qu'on cherche à apporter, c'est de la simplicité. Encore une fois, l'eau, c'est hyper compliqué. On peut chercher plein de profils d'eau différents, mais l'idée, c'est d'apporter quelque chose de simple qui apporte un réglage moyen qui permet de à peu près tout bien faire, que ce soit la méthode douce ou l'expresso, et surtout quelque chose dont on n'est pas à s'occuper tout le temps, à surveiller tout le temps, quelque chose qui travaille tout seul. Et l'autre grosse partie de l'ADN chez Brita, c'est de proposer quelque chose qui soit super écologique.
Merci, je pense que ça va étonner pas mal de gens et j'ai hâte d'avoir les retours sur cette partie-là du podcast. Je pense que je vais avoir beaucoup de réactions.
Merci d'être passé en tout cas.
Je pense qu'on a vu tout le monde là. Bon les gars, c'est la fin du Paris Café Festival pour moi. Je rentre chez moi, je me prépare un café, je me mets dans mon lit et je vous fais la conclusion à tout ça parce que j'ai vécu plein d'émotions, plein de rencontres. Ah là là, j'aime encore plus le café, comment on va faire?
Bon les gars, chose promis, chose due. Je suis dans mon lit. Je viens de passer 3 jours de folie au Paris Café Festival, invité par DeLonghi. J'ai aucun mot pour vous expliquer à quel point je suis remplie de bonheur. J'ai des étoiles plein les yeux. J'ai rencontré des gens hyper inspirants, des acteurs tellement importants de la chaîne du monde du café de spécialité. C'est fou que de rencontrer des personnes autant passionnées que toi, en vrai. Parce que je connaissais ces personnes sur leur compte Instagram, via leur café que j'avais chez moi, que je buvais dans ma machine à café, mais de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir comprendre leur vision, de pouvoir échanger, faire connaissance et mettre un visage sur ces personnes-là, parce que le monde du café de spécialité, c'est encore un monde qui est petit, qui est niche, où il n'y a pas beaucoup de gens. Le café de spécialité, ça représente entre 4 et 10% du marché du café en France. Donc vous imaginez, c'est tellement petit. Enfin, j'en parle dans mes contenus, j'en ai créé un de café en édition limitée cet hiver avec Fève. Mais la vérité, c'est que c'est encore un tellement tout petit monde. J'espère tellement que vous avez appris des trucs, j'espère tellement que vous avez rencontré à travers ces audios, des personnes qui vous inspirent, peut-être une nouvelle passion. J'espère sincèrement que ça vous donnera envie de goûter des nouveaux cafés, d'aller à la rencontre des baristas, d'être curieux, de poser des questions, de comprendre d'où viennent les cafés, de quelle ferme, de quelle région. Bref, j'espère que ça vous aura un peu sensibilisé et j'espère avant tout vous avoir transmis ma passion. Merci à toutes les personnes qui ont parlé au micro de Simple Caféine. Je suis vraiment tellement reconnaissante et je suis sur un petit nuage. Ça va être difficile de me faire redescendre, je pense. J'ai tellement hâte de voir ce que la suite nous réserve. Un podcast qui s'appelle Simple Caféine, un épisode de podcast avec Delonghi au Paris Café Festival. Les gars, c'est quoi la prochaine étape? En tout cas, j'ai hâte de vous lire. Envoyez-moi des DM, des messages, j'ai envie d'avoir vos retours, j'ai envie d'avoir votre impression, j'ai envie d'avoir votre retour à chaud sur cet épisode. Donc comme je dis toujours, soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres, S et S, sain et simple. Bye!